quand beaucoup se refusent de regarder par peur, de regarder cette question fondamentale qui peut changer le regard sur la vie et l'orientation qu'on en a prise jusqu'à présent, eh bien nous croyons-nous que ces questions de sens, elles nous libèrent, elles nous rendent heureux, elles nous rendent heureux. Mais scruter le soleil sans lunettes peut rendre aveugle. Entrer dans le chemin du sens peut remettre en question des situations acquises et peuvent aussi déconcerter. Et pourtant, le petit caillou qui est dans ma chaussure, qui me fait mal, n'arrête pas mon chemin, ma passion pour la vérité. Et quel est donc ce besoin de capter coûte que coûte le chant du monde, ses harmonies, et d'écouter en eux une mystérieuse voix qui vient d'ailleurs. Si je lui donne le nom de Dieu, je risque de couper très, très vite le courant des eaux qui mènent à la mer. La question est résolue. Alors laissons plutôt le mystère pour lui-même et continuons notre questionnement sans l'arrêter en mettant le nom qui ferme la porte, Dieu. Et disons continuellement, qu'est-ce que cette histoire, écrite avant la mienne, et qui me relance sans fin vers l'origine, comme un enfant vers son père? Vais-je trouver dans ce lieu originaire l'éblouissante lumière de la vérité, comme l'ont fait les astrophysiciens en découvrant leur rayonnement fossile qui leur a permis de prouver que cet univers a un commencement? Vais-je aller jusqu'à mon commencement? Voilà ma question. Répondre à ces questions essentielles, c'est d'abord se relier à une communauté de frères et sœurs qui nous ont précédés et qui ont eu les mêmes interrogations, parce que l'humanité est la même pour tous. Les saluer, leur demander leur aide, cela nous le ferons. Ils ont enrichi l'immense bibliothèque de l'histoire humaine. Sur les rayons, leurs noms sont inscrits à jamais. Alors consulter quelques-unes de leurs œuvres, c'est s'enrichir, c'est trouver de nouveaux points d'appui, c'est élargir notre horizon, notre questionnement du sens. Eh bien, nous allons reprendre ces questions du sens, qui sont chacune comme une sorte d'éclat du burin du sculpteur en travail, mais le foisonnement des statues, dans le foisonnement des statues que nous découvrirons, il nous faudra nous garder des idoles. Mener le même discernement et combat des prophètes de la parole divine qui durent lutter contre les Astartés, les Baals, tous les autres démons qui déforment la lumière du grand et unique roi, celui qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul d'entre les hommes ne peut voir et à qui appartiennent honneur et puissance à jamais. Nous aurons à faire ce travail. Et nous pouvons éprouver douloureusement parfois le vertige de l'abîme, la finitude de notre propre jugement sur nous-mêmes. Nous avons pu lutter contre le péché qui, comme la bête de la Genèse, cherchait à nous convoiter. Nécessaire prise de conscience de notre condition de pécheur en ce monde et premier pas vers la vie spirituelle. Et c'est ainsi que nous entrerons dans la voie, la première voie, la voie de la purification. Pourquoi personne n'échappe-t-elle à une sorte de désordre intérieur, comme si toute la race humaine avait contracté une même maladie? L'esprit a besoin de savoir ce qu'est ce désordre universel, comment il attaque la vie pour la corrompre et comment s'en purifier. C'est comme si quelque chose ou quelqu'un aurait brouillé les cartes dans le but d'empêcher le travail du sens. Depuis quand ce mal d'être? Y a-t-il une culture qui en soit épargnée? Et que disent les religions? La Genèse répond sur le tragique de cette condition qui en ce monde s'achève avec la mort. Elle nous dit que l'homme naquit dans la lumière et l'amour pour vivre un bonheur sans déclin. Il jouissait même d'une familiarité divine, Genèse 3:8. Il vivait dans la compagnie des anges dont il faisait partie. Et alors on comprend très bien que Ève, habituée à leur présence, ne se soit pas méfiée de l'ange de lumière, le Lucifer, porteur de la lumière, et innocente, elle s'est laissée piéger, comme beaucoup d'ailleurs le seront après elle. Sa nature humaine la rendait alors capable de la compagnie des anges. Eh bien, la première voie de purification va être de retrouver, de redonner à l'humanité sa place dans le sang, dans la cité angélique. C'est ce que nous diront les pères. Si l'homme est malade dans un premier temps, il faut faire un diagnostic de la maladie. Mais cela pour apporter la guérison. Voilà donc le premier pas d'humanité en quête du sens. La cause et le remède par lesquels toutes nos ressources d'intelligence sont mobilisées. Le but de ce premier pas est d'être au clair, d'être lucide pour partager le sable et l'eau. Le mal qui empoisonne la santé, afin de retrouver un corps sain dans un esprit sain. Cette première démarche, c'est la voie de la purification. Et ce travail de purification permettra d'envisager une nouvelle démarche, dans le sens, toujours dans le chemin du sens. Dieu veille. Sans lui, du début à la fin, le salut serait impossible. Mais qu'est-ce que ce salut? Certainement comme une clarté venue d'en haut, une illumination qui fait voir au-delà de la perception ordinaire, un effet de la grâce qui s'est déjà manifesté dans la purification pour créer une expérience déconcertante, l'entrée d'une parole qui dit plus que l'ordinaire. C'est ce qui s'est produit au moment du baptême de Jésus. Une parole est entrée dans l'histoire. Une parole qui était dépositaire de tout le sens complet. Elle est descendue dans l'histoire avec l'Esprit lui-même. Et sur le Tabor, plus tard, cette même lumière annoncera une autre montagne encore, le Golgotha, qui lui va apporter l'achèvement du sens. Vous voyez l'histoire qui progressivement entre dans notre humanité pour l'éclairer, pour la purifier, de façon à ce qu'on ressort comme un joyau caché le sens qui va émerger de plus en plus et qui va nous donner la clé de notre existence humaine. Et c'est à ce moment-là que l'esprit purifié va pouvoir contempler les mystères célestes, les habitants des cieux, et établir, retrouver la communion avec le ciel. L'âme purifiée, sur le chemin du sens, peut alors contempler le monde d'en haut. À partir de ce moment-là, commence une deuxième voie, la voie par la connaissance. Voie par la connaissance. L'âme, dit saint Grégoire de Nice, a repris ses ailes natives. Et maintenant, purifiée, allégée, elle peut voyager dans le monde de la révélation. Premièrement, elle connaît Jésus, le Fils de Dieu, par la parole de Dieu. Elle devient capable de lire la parole dans son sens profond, symbolique, mystique. La parole elle-même prend chair dans la chair de notre esprit qui se trouve illuminé par la sagesse. Vous voyez ce que je veux dire ? Il a fallu cette purification, ce temps, pour que nous soyons capables d'entrer dans cette voie maintenant qui va nous amener progressivement à une connaissance de plus en plus étendue, mystérieuse, de ce monde d'en haut, non plus unique, le monde de la terre, mais de ce monde d'en haut qui est la plénitude du sens que nous cherchons. La parole qui nous atteint maintenant, c'est le Verbe lui-même vivant dans l'homme. Elle est récit de l'intention du Père Créateur en créant le monde. Rassembler tout dans le Christ, ce qui est au ciel et sur la terre. La parole s'est fait chair. Elle vient transformer notre chair, notre être charnel, en fils de la lumière. La parole s'est faite histoire. Et c'est alors ce qui la distinguera de la révélation des autres spiritualités qui sont des révélations individuelles. La parole se fait histoire dès sa création. Dieu dit, et cela fut. Un courant mystique la parcourt pour en manifester l'incarnation à l'heure de la plénitude du temps. Dieu se fait homme pour que l'homme soit Dieu par la grâce. Un seul est Dieu, le Christ, selon l'agendrement éternel du Père. Et par lui, toute la création se tient dans sa seigneurie, le ciel, la terre, le monde et la cité céleste. Alors, dans cette deuxième voie, elle entre dans le mystère du Christ, parole de Dieu, qui est entrée dans l'histoire, et qui donne le sens, qui apporte le sens avec elle. Maintenant, notre esprit, notre âme purifiée, elle devient capable d'entrer dans le logos, l'intelligence éternelle. Elle va faire de nouveaux pas dans la connaissance. Dans la connaissance du sens, dans la connaissance de l'univers, dans la connaissance de soi-même. Premier pas, par le don de la parole qui s'est fait chair. Deuxième pas, elle va entrer dans la liturgie céleste en compagnie des anges. Par la grâce, l'homme purifié va retrouver sa place dans l'adoration angélique. La liturgie céleste qui devient l'œuvre éternelle des adorateurs de Dieu dans la vie éternelle. À ce niveau où elle est entrée dans la deuxième voie de la connaissance, elle reçoit l'Eucharistie en y reconnaissant la présence sacrée du Seigneur. Elle croit dans les paroles du Christ parce qu'il est le Fils de Dieu. Tout s'éclaire, la connaissance s'illumine, l'esprit s'illumine en devenant connaissant. Grâce à la parole, troisièmement, elle reçoit la sagesse. Le Fils lui dit, le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez. Que vous croyez que je suis sorti de Dieu, croyant la lumière, pour devenir des fils de la lumière. Alors, pour réaliser cette parole, la Sainte Trinité donne à l'âme l'aide de la sagesse incréée qui habite le monde divin et qui va maintenant élever l'âme vers la connaissance des mystères supérieurs. Dans un premier temps, la connaissance était celle pour du monde, telle que nous le découvrons autour de nous. Et puis, dans cette deuxième voie, grâce au Verbe divin qui nous donne la sagesse, voilà que nous entrons dans une connaissance supérieure des réalités qui nous dépassent. Qu'est-ce que donc cette sagesse qui vient pour nous aider à aller plus loin dans la connaissance, dans le mystère de Dieu et de nous-mêmes? Étonnant mystère de cette réalité qu'on appelle la sagesse. Elle nous est connue par les proverbes, par le livre de la sagesse. Alors elles nous décrivent un mystérieux personnage qui existe sans hypostase, qui n'est pas une personne. Et pourtant, le livre de la sagesse nous la décrit comme un esprit intelligent, saint, qui peut tout, surveille tout, pénètre tout, tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. Plus que tout mouvement, la sagesse est mobile. Elle traverse, pénètre tout. À cause de sa pureté, elle est un effet, une effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant. Rien de souillé ne s'introduit en elle. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. Sagesse 7, 22. La sagesse, personnage extrêmement mystérieux, vit dans une étroite proximité de Dieu. Elle est un attribut de la gloire divine. Elle est cachée dans la parole où elle se révèle pour permettre la divinisation de l'homme. C'est donc par cette sagesse, ce mystérieux personnage, qui est au cœur même de la parole, que nous allons pouvoir faire ce nouveau pas dans la connaissance des mystères supérieurs. Nous quittons la terre et grâce à la sagesse, nous entrons dans une connaissance supérieure. C'est ce que nous aurons à mieux comprendre en étudiant la deuxième voie. Elle semble plus près du Saint-Esprit, mais la parole dit aussi que la sagesse, Jésus est sagesse de Dieu. Ainsi, Chaque personne divine semble s'exprimer par la sagesse, et que c'est par la sagesse, ce personnage mystérieux, que le monde a été créé, et que c'est par la sagesse qui connaît le monde même de Dieu, la divinité, c'est par la sagesse que nous allons nous-mêmes entreprendre, recevoir la connaissance des mystères supérieurs. Elle va donner la connaissance de l'insondable mystère de Dieu. Elle a donc la connaissance elle-même du monde et de la Sainte Trinité, puisque elle habite la Trinité, puisque elle connaît la divinité des personnes divines. Il faut dire en ce moment que la divinité, c'est le monde de Dieu. La Trinité a un monde qui lui appartient en propre. Ce monde, on l'appelle le monde de Dieu, on l'appelle la divinité. Comme nous-mêmes, nous avons, en étant existants dans ce monde, nous avons un monde qui est l'humanité. Eux, ils ont un monde qui est la divinité. Et la connaissance de la deuxième voie qui va faire avancer le sens de la compréhension des choses divines, de notre être d'abord, du monde, de toutes les questions qui se posent, cette compréhension qui fait la deuxième voie va être aidée, facilitée par ce mystère de la sagesse qui vient d'en haut par l'incarnation de Dieu qui est la parole, et elle va être elle-même, va déposer en nous le sens de la parole. Et c'est ce que nous aurons à étudier, à voir comment la sagesse travaille en nous pour que nous élevions à une connaissance supérieure des réalités. Puisque c'est elle qui va nous donner la connaissance des personnes divines, de la Sainte Trinité. Alors, force de cette connaissance qu'elle a elle-même, puisqu'elle vit dans la proximité divine, elle va pouvoir nous révéler les mystères divins, les richesses divines et la volonté de Dieu de nous y faire participer. Et elle va intervenir dans notre vie pour diriger notre vie humaine selon la volonté de Dieu, pour faire de nous des enfants de la lumière. Enfants de la lumière, ce sont des enfants de la connaissance. Par la sagesse, la connaissance des réalités supérieures devient alors possible. À la fois par cette grâce, comment pourrait dire, par cette grâce qui nous est donnée et qui va agir dans notre intelligence, mais par un mouvement intérieur d'intériorisation. Réagir, est-ce que, en dernier lieu, la sagesse va pouvoir nous apporter ce que nous désirons dans cette deuxième voie qui est la connaissance des mystères célestes. Dans tout ce parcours, aboutira-t-il à combler notre désir de connaître enfin la plénitude du sens, notre désir de connaissance qui crée l'union à Dieu. Point d'interrogation. Hélas, nous verrons que tout ce parcours que nous allons faire par la connaissance nous apportera cette conviction que les efforts de l'intelligence sont nécessaires pour découvrir le sens des choses, que nous avons besoin de l'aide de la grâce mais que la connaissance ne nous mènera pas plus loin que la porte du paradis. Je ne dis pas cela au départ pour vous déconcerter, pour dire alors c'est pas la peine de faire le chemin. Cruelle constatation néanmoins, car si la quête de l'union s'arrêtait là, oui, effectivement tout serait perdu. Mais voici que le cœur s'éveille. L'amour va prendre le relais au moment où la deuxième voix aura tout donné d'elle-même. Elle aura accompli le ministère de Saint Jean-Baptiste qui montre Jésus du doigt, mais elle n'a pas pu allumer le feu dans l'homme. Elle a donné le meilleur d'elle-même. Elle sait bien qu'elle a été la servante du sens. Et puis alors, elle quitte la scène avec discrétion et laissant la place à la venue de l'amour. Ce sera la troisième voie. Il y a quelque chose de tragique dans la deuxième voie. Moi, au fur et à mesure où j'ai fait ce travail, j'ai senti qu'on a besoin tous de connaître. C'est une revendication de notre esprit, de l'intelligence. On a besoin de connaître. Et on voit bien souvent quand on est dans la prière, c'est pas la connaissance qui fait. La connaissance meurt dans la prière, d'une certaine façon. La connaissance, elle est faite pour avant. Hein, on étudie la parole de Dieu. On fait le travail qu'on va faire ensemble. Et puis au moment de la prière, ce n'est plus la connaissance. C'est quelque chose de plus profond qui nous tient à ce moment-là. Ce dont on a besoin, c'est le lien, l'union à Dieu. Et pourtant, on ne peut pas se passer de la connaissance. Vous voyez, la première voie nous a amené à nous purifier. La deuxième voie nous amène un peu plus loin pour nous donner davantage le sens, la connaissance du sens. Et puis nous arrivons là. Mais si nous ne faisions pas l'effort de la connaissance, ça irait contre ce que le Seigneur Dieu a déposé en nous. Il nous a donné une faculté qui est la faculté de l'intelligence, et la faculté de l'intelligence, c'est le Verbe de Dieu en nous. Et c'est là que la sagesse, mystérieux personnage, moi je me demande toujours. En face de la sagesse, je crois qu'on ne comprend rien en face de ce mystère. Est-ce que le Père semble vouloir utiliser cette... où vit la sagesse? Ils sont trois. Bon, ils vivent ensemble dans leur monde. Pourquoi en plus la sagesse? Ce n'est pas une invention, c'est la parole qui nous le dit. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un être sans l'être vraiment, c'est un esprit qu'ils utilisent, qui est la sagesse révélée, et qui connaît leur monde. C'est comme si c'était un outil qu'ils s'étaient donné, moi je suis arrivé à cette compréhension-là, comme un outil qui se serait donné chaque personne divine, pour exprimer le Père, pour exprimer le Fils, pour exprimer l'Esprit. Et elle est porteuse de toute cette connaissance divine. Elle connaît le monde de Dieu, elle est la sagesse incréée, et quand elle vient dans notre monde, elle rentre dans notre humanité, et elle devient la sagesse créée en nous, qui nous permet de connaître ces réalités d'en haut, ces réalités qu'elle-même connaît, dont elle vit, et qui est la mystérieuse sagesse qui nous est donnée. Et c'est elle qui pénètre, ou qui fait pénétrer les semences, on le dira, d'intelligence qui se trouve dans le monde et que nous avons, et que nous découvrons. Nous découvrons le sens des choses grâce à l'illumination de la sagesse. La deuxième voie, est donc importante, même si elle ne va pas plus loin, mais si elle ne peut pas ouvrir les cieux. Elle nous emmène jusqu'à cette porte céleste où nous avons compris qu'il n'y a pas que ce monde, mais qu'il y a effectivement un autre monde. Et la sagesse, et la deuxième voie, c'est la compréhension que cet autre monde qui est au-dessus du monde terrestre, le monde noétique, le monde de la connaissance, ce monde-là, c'est aussi le monde des anges. Et la deuxième voie, c'est particulièrement la connaissance de ce monde angélique, le monde des anges. Si vous avez en vous le désir de connaître le monde des anges, vous êtes entré dans cette deuxième voie. Vous avez franchi la première voie de la purification et vous êtes entré maintenant dans la deuxième voie qui est la connaissance du monde angélique. Vous êtes préoccupé par tout ce que sont les réalités supérieures. Vous avez quitté le monde. Vous êtes entré dans votre esprit, dans un autre univers. Vous marchez dans la sagesse divine, dans la sagesse incréée qui est venue en nous comme sagesse créée pour nous faire connaître les réalités supérieures. Ces réalités qui sont les réalités fondamentales, définitives, et qui ne sont pas les réalités terrestres. Vous êtes entré dans la voie de la connaissance, la deuxième voie de la connaissance. Troisième voie. La troisième voie met en scène une femme qui vient chanter l'amour de son époux. Elle s'appelle la bien-aimée du Cantique des Cantiques. Et lui, l'époux s'appelle le bien-aimé. Elle connaît celui qu'elle aime. Elle le proclame à tout ce qui l'écoute. Les vignes en fleurs, les fruits des grenadiers, les mandragores qui diffusent leur parfum. Elle implore les filles de Jérusalem de ne pas réveiller en elle l'amour. Et pourtant, quand le bien-aimé vient la solliciter, elle n'est pas prête. Elle le laisse partir. Et voilà que son cœur bat plus fort encore pour retrouver le bien-aimé. Dialogue de l'amour, jeu de l'amour, qui doit mener l'épouse jusqu'aux noces de l'agneau. Marche nuptiale de l'âme qui monte par degrés vers la fournaise de l'amour. Cette troisième voie sera l'accomplissement le plus haut possible qui soit de l'union à Dieu par le chemin du Christ mort et ressuscité. Alors va retentir dans l'âme la voix de l'esprit qui invite aux noces mystiques de l'agneau. L'épouse, dit l'Apocalypse 19,8, l'épouse s'est habillée de lin fin, éclatant, des œuvres justes. Dieu a essuyé toute larme de ses yeux. La parole s'est accomplie. Tu danseras pour ton Dieu. Il est une histoire de l'homme déchu. Première voix. Une histoire du salut, une histoire de la connaissance des mystères, deuxième voie. Il est aussi l'histoire qui accomplit toute l'histoire. C'est celle de l'âme qui monte à chaque pas de danse dans la lumière de l'amour. C'est par la transformation progressive que l'homme atteste l'action de l'esprit qui inspire sa montée par le don de la sagesse. Expérience ineffable dont parle la tradition mystique de la présence qui se fait de plus en plus proche par des manifestations même insolites à la raison. Dieu ineffable, incompréhensible, au-delà de tout, c'est le Dieu des mystiques de la troisième voie. C'est lui qui inspire le désir, qui ne cessera de grandir en même temps que grandira la jouissance du Dieu beau et bon. Tous ceux en qui le désir pénétrera profondément ne cesseront jamais de désirer pour jouir du bien-aimé, d'un plus grand désir encore. La vie d'amour ne connaîtra plus de satiété. Eh bien voilà, mes très chers, nous allons entreprendre cette étude. Revoir un peu ce grand chemin qui naît par la grâce de notre esprit, qui le transforme progressivement, qui nous fait monter et qui nous amène jusqu'à la porte des cieux. Et cette porte, par la troisième voie, elle s'ouvre. Et elle s'ouvre comment? Eh bien, écoutez, c'est le mystère de l'horizon. Chacun de nous éprouve ça. Dans le mystère de l'horizon, l'âme s'est purifiée. Elle ne cherche plus à comprendre. Elle goûte la présence. Elle est dans la présence de la présence. Elle n'attend plus qu'une chose, c'est que le voile se déchire. Mais elle atteint, elle est là maintenant. Elle est l'épouse. Elle sait qu'elle est l'épouse. Elle sait que bientôt, le voile va se déchirer. Et déjà, elle perçoit des chants de l'autre côté du monde. C'est toute la liturgie de l'Église. Nous allons donc refaire cette marche. Autant que nous pouvons bien l'accomplir. Et nous pouvons conclure avec cette parole de Jean. Si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons chez lui notre demeure. Mystère des demeures qui a hanté la réflexion mystique à travers tous les temps. Entrer dans la demeure supérieure, devenir demeure. Eh bien, notre ami Jean qui est là se chargera de la première étape. Eh bien, moi je prendrai la seconde. Et c'est Jean-Louis, qui malheureusement n'est pas parmi nous, mais enfin qui nous a donné son travail, qui parlera de l'accomplissement de l'âme qui voit les portes s'ouvrir. Et déjà, le spectacle des noces de l'agneau immolé.